Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette deuxième saison, nous partons dans les pas d'un avocat ou d'une avocate, explorer les terrains juridiques qu'arpenteront les acteurs de la construction dans les prochains mois. Du décret tertiaire à l'urbanisme transitoire, en passant par l'artificialisation des sols, le verdissement de la commande publique ou encore la protection des lanceurs d'alerte, il nous livre les clés pour mieux comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques et anticiper les échéances. Une série d'interviews au micro de Sophie Dozon.
Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur, et aujourd'hui, nos conducteurs de travaux juridiques sont Philippe Nugue et Nathalie Feltman. Philippe est avocat associé spécialiste du droit public et du droit immobilier. Nathalie est directrice générale de l'entreprise Mafriche Urbaine basée à Lyon. Et nous allons ensemble parler d'urbanisme transitoire ou comment profiter de fonciers libres avant leur reconversion. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors ma première question va être très simple, c'est quoi exactement l'urbanisme transitoire Nathalie? Et surtout comment ce phénomène a-t-il émergé?
L'urbanisme transitoire, c'est une période de transition entre une cessation d'activité et une seconde activité, une démolition ou un projet urbain. C'est dans cette période de transition où on fait des choses. Initialement, les squats occupaient cette transition dans certains cas. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une légalisation de cette démarche jusqu'à une démocratisation de la démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins de locaux pour des structures qui démarrent, des associations qui peuvent pas forcément se payer un prix du marché, et en face, des espaces inoccupés pendant plusieurs années qui pourraient leur être mis à disposition. Donc l'urbanisme transitoire permet cela.
L'urbanisme transitoire, c'est peu à peu doté d'un cadre pour sortir de cet état de friche juridique.
Exactement.
L'enjeu majeur pour les acteurs, Philippe, qu'est-ce que c'est?
C'est essentiellement de rassurer les propriétaires de ces actifs qui redoutent essentiellement des occupations illicites et qui sont très difficiles à faire disparaître. Et l'enjeu aussi, il est souvent de nature économique. C'est aussi un moyen pour l'entreprise d'assurer une cohérence de ses actifs et de s'assurer même qu'ils vont pas plus se dégrader au point de contrarier encore plus la réalisation de son projet futur.
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce cadre juridique? Quels sont les textes qui sont intervenus pour sécuriser cet urbanisme transitoire?
Alors, c'est dans le code de l'urbanisme qu'ont été imaginées et consacrées par la loi des autorisations d'urbanisme à caractère temporaire. On parle de permis précaires. Et ces permis précaires permettent de réaliser des projets à durée temporaire et parfois en n'étant pas tenu de respecter les règles d'urbanisme local. C'est-à-dire qu'on va avoir des utilisations de ces biens qui ne correspondent pas forcément à l'utilisation des biens qui sont prévus pour le secteur dans le PLU où elles sont installées. Alors c'est un mécanisme qui a déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais qui n'est pas encore très très usité en pratique. Les services instructeurs n'ont pas beaucoup l'habitude parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se sont faits concrètement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette autorisation est donnée pour un projet qui a un caractère réversible. À la fin de la mise en œuvre du permis précaire, on est censé défaire ce qu'on a fait à titre temporaire. Dans les cadres législatifs, si on veut pas tous les passer en revue, on peut retenir des mécanismes qui ont été instaurés là aussi à titre expérimental pour permettre de créer une relation conventionnelle sécurisée pour le propriétaire. Pour faire simple, on fait intervenir l'État dans un mécanisme tripartite. Le propriétaire met à disposition son bien. Il identifie avec l'État des associations qui vont réaliser des travaux et permettre l'hébergement de populations, la plupart du temps en précarité ou en difficulté. Et l'État est le garant de la réalisation des travaux et surtout de la récupération du site à la date sur laquelle on s'est mis d'accord. Ça, c'est inscrit depuis déjà 2018 dans la loi Elan. Le mécanisme, il est censé, parce qu'il est expérimental, s'achever au 31 décembre 2023. Il ne fait pas beaucoup de doutes qu'il va être reconduit.
D'accord, donc un urbanisme transitoire avec des textes temporaires.
Oui, mais il y a quand même des signaux qui se mettent les uns après les autres au vert. Notamment, on a une prise de position de l'administration fiscale. On a un dispositif fiscal précis pour la mise à disposition gratuite de biens par ces entreprises, notamment pour qu'on ne puisse pas considérer qu'elles sont en train de faire de la prestation de service qui ne dit pas son nom et qu'elles ne soient pas tenues de percevoir de la TVA et de reverser de la TVA au Trésor. Donc, on a même une réponse qui date du mois de novembre dernier, qui reprécise bien ce cadre-là et qui est de nature à détendre des acteurs.
Alors, dans ce contexte porteur, Nathalie, vous avez cofondé en 2019 avec votre associé Anne Delos la société Mafriche Urbaine. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi une ESS?
Donc, effectivement, on est une entreprise de l'ESS, c'est-à-dire que on a comme objet social la cohésion sociale sur les territoires. Et donc, notre but est de renouer les liens pour faire la cité ensemble. Et on utilise l'occupation temporaire pour cela. On co-conçoit les projets avec les parties prenantes qu'on a décidées avec le propriétaire du site et les futurs usagers.
Vous avez des projets qui vont de 1 à 5 années à peu près. On va aller sur le terrain avec vous, Nathalie, maintenant. On va explorer différentes opérations qui permettent de voir que l'urbanisme transitoire s'adapte à tout type de configuration, à tout type de propriétaire, de terrain, de durée, etc. Pour commencer, on va partir à Dijon, dans d'anciennes chambres de cheminots.
Exactement. Nous avons accompagné la SNCF Immobilier sur le foyer de l'Arc Buse, centre-ville de Dijon. Donc, nous sommes sur un ancien foyer de travailleurs SNCF, inoccupé depuis plusieurs années, qui aujourd'hui a été mis à disposition pour une structure d'hébergement d'urgence qui fait des logements de transition, des bureaux d'accession à l'emploi et au numérique, aux outils du numérique, une structure qui s'appelle À Défaut. Et donc, nous avons accompagné la SNCF Immobilier à concevoir un projet avec un équilibre économique qui puisse s'ancrer dans son territoire. Et dans ce cadre-là, le projet est coordonné par l'occupant qui, finalement, a pris l'intégralité du site, qui fait appel à des occupants ponctuels et réguliers pour occuper, dans le cadre d'ateliers, les locaux.
Et donc ça, c'est une opération qui a été lancée pour une année seulement. C'est une durée très courte.
Exactement, c'était notre objectif donné par le propriétaire et un enjeu fort pour nous de créer un projet qui soit viable sur une année. C'est un modèle économique qui nous est pas permis sur tous nos projets.
Alors, autre exemple à Vénissieux, en banlieue de Lyon, avec la SNCF toujours, mais pas seulement, puisque cette fois, c'est une opération qui compte plusieurs propriétaires.
Oui, à Vénissieux, on est sur 6 hectares de terrain, sur une typologie de petites maisonnettes avec jardin, dans un quartier proche de quartiers sensibles, dans un site à fort enjeu de la collectivité sur un futur projet urbain. Donc, ce n'était pas du tout la même typologie ni de site, ni de futur du site sur Arc Buse. Et là, on a une multiplicité d'acteurs. On a donc ICF Habitat, qui est le bailleur social, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau. Et donc, ce projet a été monté en collaboration avec la ville de Vénissieux et la métropole, qui étaient décisionnaires également sur la typologie d'activité et sur les occupants. Ce projet-là a abouti à un appel à projet et aujourd'hui à l'installation d'occupants sur l'agriculture urbaine. On a des activités autour des animaux, autour de la solidarité, mais également autour du vélo et de l'agriculture. En insertion également.
Et vous parliez de quartiers sensibles. Vous êtes aussi sur une opération à la Duchère, à Lyon, en quartier prioritaire de la ville. Là, c'est un bailleur social qui fait appel à vous parce qu'il va démolir une grosse barre de logements.
Lyon Métropole Habitat, le propriétaire, est en période de relogement sur ce quartier, donc sur une barre de environ 200 foyers avant la démolition, donc en période de relogement, a en sa possession plusieurs locaux commerciaux inoccupés depuis plusieurs années. On a conçu un projet autour du réemploi, de l'artisanat, de l'art et des services qui pourraient être réapportés aux locataires, mais aussi aux habitants qui, eux, resteront dans le projet pérenne. Symboliquement, on a choisi la pharmacie pour qu'elle soit un tiers-lieu, un lieu ouvert au public où il y aura des permanences d'accès aux droits, des actions sur la parentalité, mais aussi des ateliers d'art et de sport également.
Donc, ça permet de favoriser l'acceptabilité par les habitants du projet du bailleur.
Et en effet, mais aussi d'accompagner le quartier dans cette période de transition pour pas qu'ils se sentent abandonnés et pour maintenir une certaine dynamique qui, petit à petit, s'essouffle sur ce quartier.
Et on peut aussi faire de l'urbanisme transitoire sur un terrain complètement vierge de bâtiments. C'est ce que vous faites à Villefranche-sur-Saône, où là, le projet, c'est la construction d'un éco-quartier et on va occuper l'espace public avant sa réalisation.
Exactement. Et là, c'est la ville de Villefranche-sur-Saône qui a fait appel à nous dans le cadre de l'éco-quartier Montplaisir. Il existe un terrain donc vague qui va devenir d'un côté une construction, mais de l'autre un espace public. Nous avons conçu un projet qui puisse commencer à entamer des usages d'espace public, des choses autogérées, des choses autour du sport, prônant les valeurs aussi de l'éco-quartier avec du réemploi, du lien social et également des containers mis à disposition pour des associations et structures de l'économie sociale et solidaire locale.
Le droit dans ses bottes par Le Moniteur et Adaltis.
Déjà beaucoup de possibilités, on le voit à travers ces différents exemples. Mais si je vous offrais une baguette magique, Philippe, Nathalie, qu'est-ce que vous en feriez pour booster encore l'urbanisme transitoire?
Avec une baguette magique, on chercherait à rassurer, c'est-à-dire à rassurer les propriétaires. Ça, c'est beaucoup la loi qui peut apporter là-dessus. C'est rassurer aussi le voisinage immédiat de ces opérations et c'est rassurer les acteurs publics. On chercherait surtout à promouvoir les outils qui existent déjà, même s'ils sont à caractère expérimental, ils sont quand même bien complets et permettent déjà de faire beaucoup de choses. Ici, ce qu'on voit bien, c'est qu'on sert des populations qui n'auraient pas facilement, voire pas du tout, accès au foncier bâti. Donc, on va parler de principalement de populations à loger, à héberger, à insérer, à accompagner socialement. On va parler aussi des artistes. Donc, des modèles économiques où, effectivement, on aurait beaucoup de difficultés à les faire rentrer dans des cadres classiques. Donc, si on a cette fameuse baguette magique, il faut juste pouvoir assurer encore plus de publicité sur ces possibilités.
Moi, j'irais au-delà de rendre possible, mais rendre systématique le fait de tester des usages avant de les pérenniser, proposer ces espaces à des structures qui ne peuvent pas se payer un prix du marché et les mettre à disposition voilà de structures qui souhaitent avoir un impact sur l'environnement, sur le territoire, sur la population.
Et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de découvrir des modèles qui pourraient durer dans le temps, et en agrégeant des acteurs qui sont quand même très divers de l'économie sociale et solidaire, arriver à définir des nouveaux modes d'utilisation de la ville qui seraient complètement pérennes, et de reconstituer ou de constituer des quartiers à fort développement et pas que des choses temporaires.
Pour compléter, j'allais dire sortir de la logique d'urbaniste, architecte, sachant, mais plutôt aussi laisser la place à l'usager et à l'usage qu'il va lui-même faire de nos beaux projets imaginés dans nos bureaux.
L'appel est lancé. Merci Nathalie, merci Philippe et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.